Gabriele d'Annunzio, Episcopo et compagnie. Vous voulez donc savoir? Mais que voulez-vous savoir, monsieur? Que faut-il vous dire? Quoi? Tout? Eh bien, je vais vous raconter tout depuis le commencement. Tout depuis le commencement, mais comment faire? Je ne sais plus rien. Je vous assure que je ne me souviens de rien. Comment faire, monsieur? Comment faire? Ah, mon Dieu, voici. Ah, attendez, s'il vous plaît, un peu de patience. Ayez, je vous prie, un peu de patience parce que je ne sais pas parler. Quand même, je me rappellerai quelque chose, je ne saurais pas vous le dire. Au temps où je vivais parmi les hommes, j'étais taciturne. Oh, j'étais satisturne, même après avoir bu, toujours. Non, non, pas toujours. Avec lui, je parlais, mais avec lui seulement. Certains soirs d'été, dans le faubourg ou encore sur les places, dans les jardins publics. Il mettait son bras sous le mien, son pauvre bras maigre, si frêle que je le sentais à peine. Et nous nous promenions ensemble en raisonnant. 11 ans, pensez, monsieur, il n'avait que 11 ans. Et il raisonnait comme un homme. Il était triste comme un homme. On aurait dit qu'il savait déjà la vie, toute la vie, et qu'il souffrait toutes les souffrances. Déjà, sa bouche connaissait les mots amers, ceux qui font tant de mal et qui ne s'oublient pas. Mais y a-t-il des gens qui oublient jamais quelque chose? Y en a-t-il? Je vous disais, je ne sais plus rien, je ne me souviens plus de rien. Oh, cela n'est pas vrai. Je me souviens de tout, de tout, de tout, vous entendez? Je me rappelle ses paroles, ses gestes, ses regards, ses larmes, ses soupirs, ses cris, les moindres particularités de son existence, tout, depuis l'heure où il est né jusqu'à l'heure où il est mort. Il est mort, oui, voilà 16 jours déjà qu'il est mort. Et moi, je suis encore vivant. Mais je dois mourir, et plus tôt je mourrai, mieux cela vaudra. Mon enfant veut que j'aille le rejoindre. Chaque nuit, il vient, s'assoit, me regarde. Il est nu-pied, le pauvre Chiro. J'ai besoin de tendre l'oreille pour distinguer ses pas. Dès que la nuit tombe, je suis continuellement, continuellement aux écoutes. Et lorsqu'il met le pied sur le seuil, c'est comme s'il le mettait sur mon cœur, mais d'une façon si douce, sans me faire mal, léger comme une plume. Pauvre âme. Toutes les nuits, maintenant, il est nu-pied. Mais croyez-moi, jamais de son vivant, jamais, il n'a marché nu-pied. Jamais, je vous le jure. Je vais vous dire une chose. Faites bien attention. S'il vous mourait une personne chère, prenez soin qu'il ne lui manque de rien dans son cercueil. Habillez-la, si vous pouvez, de vos propres mains. Habillez-la complètement, minutieusement, comme si elle devait revivre, se lever, sortir. Rien ne doit manquer à celui qui s'en va du monde. Rien, souvenez-vous-en, rien. Eh bien, regardez ces petits souliers. Vous avez des enfants? Non. Alors vous ne pouvez pas savoir. Vous ne pouvez pas comprendre ce qu'est pour moi cette mauvaise paire de petits souliers qui ont contenu ses pieds, qui ont conservé la forme de ses pieds. Je ne saurais jamais vous le dire. Jamais aucun père ne saura vous le dire, aucun. Au moment où ils entrèrent dans la chambre, où ils vinrent pour m'emmener, est-ce que tous ces vêtements n'étaient point là, sur la chaise à côté du lit? Et pourquoi donc ne me préoccupais-je que des souliers? Pourquoi les cherchais-je sous le lit, anxieusement, avec la sensation que mon cœur se fendrait si je ne les trouvais pas? Pourquoi les cachais-je comme s'il était resté un peu de sa vie? Oh, vous ne pouvez pas comprendre. Certains matins, en hiver, à l'heure de l'école, le pauvre enfant souffrait des engelures. L'hiver, ses pieds n'étaient qu'une plaie, toute saignante. C'est moi qui lui mettais ses souliers, qui les lui mettais moi-même. Je savais si bien. Puis, pour les lacets, je me baissais, je sentais s'appuyer sur mes épaules ses mains déjà tremblantes de froid, et je m'attardais. Mais vous ne pouvez pas comprendre. Quand il est mort, il n'en avait qu'une paire, celle que vous voyez. Et je la lui ai prise. Et subitement, on l'ensevelit telle quelle, comme un petit pauvre. Est-ce que personne l'aimait, excepté son père? Maintenant, tous les soirs, je prends ces deux souliers, je les pose l'un près de l'autre, sur le seuil, à son intention. S'il les voyait en passant, peut-être les voit-il, mais il n'y touche pas. Il sait peut-être que je deviendrais fou si, le matin, je ne les trouvais plus à leur place, l'un près de l'autre. Ah, vous me croyez fou, non? Ah, il me semblait lire dans vos yeux. Non, monsieur, je ne suis pas fou encore. Ce que je vous raconte, c'est la vérité. Tout est vrai. Les morts reviennent. Ils reviennent aussi, l'autre, quelquefois. Quelle horreur! Oh, quelle horreur! Vous voyez, pendant des nuits entières, j'ai tremblé comme à présent. J'ai claqué des dents sans pouvoir m'en défendre. J'ai cru que la terreur allait me disloquer les os, jointures. J'ai senti sur mon front jusqu'au matin mes cheveux pareils à des aiguilles, raides, dressées. N'ai-je pas les cheveux tout blancs? Ils sont blancs, n'est-ce pas, monsieur? Merci, monsieur. Vous voyez, je ne tremble plus. Je suis malade, très malade. Combien de jours de vie me donneriez-vous encore, en jugé sur ma mine? Vous savez, je dois mourir et le plus tôt sera le mieux. Mais oui, je suis calme, parfaitement calme. Je vous raconterai tout depuis l'origine, selon votre désir, tout par ordre. La raison ne m'a pas encore abandonné, croyez-moi. Donc, voici l'affaire. C'était dans une maison des quartiers neufs, dans une espèce de pension bourgeoise, il y a 12 ou 13 ans. Nous étions une vingtaine d'employés, tant jeunes que vieux. Nous y allions dîner le soir ensemble, à la même heure, à la même table. Nous nous connaissions tous, plus ou moins, quoique nous ne fussions pas tous du même bureau. Et c'est là que j'ai connu Vanser, Giulio Vanser, il y a 12 ou 13 ans. Vous avez vu le cadavre? Ne vous a-t-il point paru qu'il y avait quelque chose d'extraordinaire dans ce visage, dans ses yeux? Ah oui, j'oublie, les yeux étaient fermés. Pas tous les deux, cependant, pas tous les deux. Cela, je le sais bien. Il faut que je meure, ne serait-ce que pour m'ôter des doigts l'impression de cette paupière qui résistait. Je la sens, oh, je la sens ici toujours. Comme si en cet endroit s'était attaché un peu de cette peau. Regardez ma main. N'est-ce pas une main qui a déjà commencé de mourir? Regardez-la. Oui, c'est vrai, il ne faut plus y penser. Je vous demande pardon. Je vais maintenant tout droit au but. Où en étions-nous? Le commencement allait si bien. Puis tout d'un coup, je me suis perdu. Ah, c'est sans doute parce que je suis à jeun, rien d'autre chose. Non, rien d'autre chose. Depuis bientôt 2 jours, je n'ai pas mangé. Je me souviens qu'autrefois, quand j'avais l'estomac vide, il me venait une espèce de délire léger, si étrange. Il me semblait que je m'évanouissais. Je voyais des choses. Ah, j'y suis, vous avez raison. Je disais donc, c'est là que j'ai fait connaissance avec Vanser. Il dominait tout le monde là-dedans. Il opprimait tout le monde. Il ne souffrait pas la contradiction. Toujours le verbe haut et quelquefois aussi la main haute. Une soirée ne se passait pas sans qu'il y eût quelques disputes. On le haïssait et on le redoutait comme un tyran. Tout le monde parlait mal de lui, murmurait, complotait. Mais à peine paraissait-il que les plus enragés eux-mêmes faisaient silence. Les plus timides lui souriaient, le cajolaient. Mais qu'est-ce donc qu'il avait, cet homme? Je ne sais pas, moi. À table, j'étais presque en face de lui. Involontairement, mes yeux le regardaient sans cesse. J'éprouvais une sensation bizarre que je suis incapable d'exprimer. Un mélange de répulsion et d'attraction. Quelque chose d'indéfinissable. Cela ressemblait à un magnétisme malfaisant, très malfaisant, que cet homme robuste, sanguin et brutal projetait sur moi, si faible dès lors et maladif et sans volonté, pour tout dire un peu lâche. Un soir, vers la fin du repas, une discussion s'éleva entre Fanser et un certain Ingletti, dont la place était à côté de la mienne. Selon son habitude, Fanser haussait les épaules et s'irritait. Ingletti, à qui le vin sans doute donnait de la hardiesse, lui tenait tête. Moi, je restais presque immobile, les yeux sur mon assiette, n'osant pas les relever. Et je sentais à l'estomac une horrible contraction. Soudain, Wanzer saisit un verre et le lança contre son antagoniste. Le coup faillit et le verre vint se briser sur mon front, là où vous voyez une balafre. Dès que je sentis le sang chaud sur ma figure, je perdis connaissance. Lorsque je revins à moi, j'avais déjà la tête bandée. Fanser était à mon côté, la mine dolente. Il m'adressa quelques mots d'excuse. Il me reconduisit à la maison avec le médecin. Il assista au second pansement. Il voulut rester dans ma chambre jusqu'à 1 heure avancée. Il revint la matinée d'après, il revint souvent, et ce fut le commencement de mon esclavage. Il m'était impossible d'avoir à son égard une autre attitude que celle d'un chien qui a peur. Quand il entrait chez moi, il prenait des airs de maître. Il ouvrait mes tiroirs, se peignait avec mon peigne, se lavait les mains dans ma cuvette, fumait ma pipe, fouillait dans mes papiers, lisait mes lettres, emportait des objets à sa convenance. Et chaque jour, son despotisme devenait de plus insupportable. Et chaque jour, mon âme s'avilissait, se rapetissait davantage. Je n'eus plus ombre de volonté. Je me soumis simplement, sans protestation. Il m'enleva tout sentiment de dignité humaine, comme ceci, d'un seul coup, avec autant de facilité qu'il m'aurait arraché un cheveu. Et pourtant, je n'étais pas devenu stupide, non. J'avais conscience de tout ce que je faisais, une très claire conscience de tout, de ma faiblesse, de mon abjection, et spécialement de l'impossibilité absolue où j'étais de me soustraire à l'ascendant de cet homme. Je ne saurais vous définir, par exemple, le sentiment profond et obscur que ma cicatrice éveillait en moi. Je ne saurais vous expliquer le trouble extrême qui m'envahit un jour que mon bourreau me prit la tête dans ses mains pour examiner cette cicatrice encore fraîche et enflammée. Il passa le doigt dessus à plusieurs reprises et dit: « Elle est fermée parfaitement. Dans un mois, tu paraîtras plus. Tu peux remercier Dieu. » Il me sembla au contraire, à partir de cette minute, que je portais au front non pas une cicatrice, mais un sceau de servitude, une marque infamante, qui sautait aux yeux et que je garderais toute ma vie. Je le suivis partout où il voulut. Je l'attendis des heures entières dans la rue, devant une porte. Je veillais à la nuit pour recopier les papiers de son bureau. J'allais porter ses lettres d'un bout de Rome à l'autre. 100 fois, je gravis les escaliers du Mont-de-Piété. Je courus d'usurier en usurier, hors d'haleine, pour lui trouver l'argent dont il attendait son salut. 100 fois, dans un tripot, je restai derrière sa chaise jusqu'à l'aube, mourant de fatigue et de dégoût. Tenu éveillé par l'explosion de ses blasphèmes et par l'âcre fumée qui me mordait la gorge. Et Matou l'impatientait, et il m'accusait de sa déveine. Et puis, quand nous sortions, s'il avait perdu, il me traînait avec lui comme une guenille dans les rues désertes, sous le brouillard, jurant et gesticulant, jusqu'au moment où, à un détour, surgissait une ombre qui nous offrait le petit verre d'eau-de-vie. Ah, monsieur, qui me dévoilera ce mystère avant que je meure? Il y a donc sur terre des hommes qui, rencontrant d'autres hommes, peuvent en faire ce qu'ils veulent, peuvent en faire des esclaves. Il y a donc moyen d'ôter à quelqu'un sa volonté, comme on lui retirerait d'entre les doigts un fétu de paille. Cela est donc possible, monsieur, mais pourquoi? Devant mon bourreau, je n'ai jamais pu vouloir. Et pourtant, j'avais mon intelligence. Pourtant, j'avais le cerveau plein de pensées. J'avais lu beaucoup de livres. Je savais beaucoup de choses. Je comprenais beaucoup de choses. Il y a une chose, surtout, que je comprenais bien. C'est que j'étais irrémissiblement perdu. Au fond de moi-même, sans trêve, j'avais un effroi, une épouvante. Et depuis le soir de ma blessure, il m'était resté la peur du sang, la vision du sang. Les faits divers des journaux me troublaient, m'ôtaient le sommeil. Certaines nuits, lorsque, rentrant avec Vanser, je passais par un couloir sombre, par un escalier obscur, si les allumettes tardaient à s'enflammer, je me sentais un frisson dans les chines, et mes cheveux commençaient à devenir sensibles. Mon idée fixe était qu'une nuit ou l'autre, cet homme m'assassinerait. Cela n'arriva point. Ce qui arriva, c'est au contraire ce qui ne pouvait pas arriver. Je pensais, mourir de ses mains, une nuit, atrocement, voilà mon destin à coup sûr. Et au contraire, mais écoutez, si ce soir-là, Vanser n'était pas venu chercher dans la chambre de Chiro, si je n'avais pas aperçu le couteau sur la table, si quelqu'un n'était pas entré en moi à l'improviste pour me donner la terrible poussée, si... Ah, c'est vrai, vous avez raison. Nous n'en sommes qu'au commencement et je vous parle de la fin. Vous ne pourriez pas comprendre si je ne vous racontais pas d'abord toute l'histoire. Et pourtant, je suis déjà fatigué, je m'embrouille. Je n'ai plus rien à vous dire, monsieur. J'ai la tête légère, légère. On dirait une vessie pleine de vent. Je n'ai plus rien à vous dire. Amen. Amen. Ben non, c'est passé. Merci, vous êtes bien bon, vous avez pitié de moi. Personne sur terre n'a eu pitié de moi jamais. Je me sens mieux, je puis continuer. Je vais vous parler d'elle, de Ginevra. Après l'accident du verre, quelques-uns de nos camarades quittèrent la pension. D'autres déclarèrent qu'il resterait si Giulio Vanser était exclu. Cela fit que Vanser reçut de la patronne une espèce de congé. Après avoir, selon son habitude, tempêté contre tout le monde, il partit. Et lorsque je fus en état de sortir, il voulut m'emmener avec lui. Il exigea que je le suivisse. Nous errâmes longtemps de restaurant en restaurant sans nous décider. Et il n'y avait rien de plus triste pour moi que l'heure des repas, qui, pour les gens fatigués, est une heure de soulagement et quelquefois d'oubli. Je mangeais à peine en me forçant, de plus en plus dégoûté par le bruit que faisaient les mâchoires de mes commensaux. Des mâchoires de bouledogue, formidables, qui auraient broyé de l'acier. Et petit à petit commençait à s'allumer en moi la soif. Cette soif qui, une fois allumée, dure jusqu'à la mort. Mais un soir, Vanser me laissa libre. Et le jour d'après, il m'annonça qu'il avait découvert un endroit très agréable où il voulait me conduire immédiatement. « Je l'ai trouvé, tu vas voir, ça te plaira !» En effet, la nouvelle pension était peut-être meilleure que l'ancienne. Les conditions me convenaient. Il y avait là quelques-uns de mes camarades de bureau. Plusieurs autres habitués ne m'étaient pas inconnus. Je restais donc. D'ailleurs, vous le savez bien, il m'aurait été impossible de ne pas rester. Le premier soir, lorsqu'on apporta le potage sur la table, deux ou trois pensionnaires demandèrent en même temps, avec une vivacité singulière, « Et Ginevra, où est Ginevra ?» répondit que Ginevra était malade. Alors tous s'informèrent de la maladie, tous manifestèrent beaucoup d'inquiétude. Mais il ne s'agissait que d'une légère indisposition. Dans la conversation, le nom de l'absente vint sur toutes les bouches, prononcé au milieu de phrases ambiguës qui trahissaient le désir sensuel dont tous ces hommes, vieux et jeunes, étaient troublés. Moi, je tâchais de saisir les mots au vol d'un bout de la table à l'autre. Vis-à-vis de moi, un jeune libertin parla de la bouche de Ginevra longuement, avec chaleur. Il me regardait en parlant, parce que je l'écoutais avec une attention extraordinaire. Je me souviens qu'alors mon imagination se forma de l'absente une idée fort peu différente de la figure réelle que je vis plus tard. Je me souviens toujours du geste significatif que fit Fanser et de la moue gourmande de ses lèvres lorsqu'il prononça en dialecte une obscénité. Je me souviens aussi que, quand je sortis, je sentais déjà sur moi la contagion d'un désir pour cette femme inconnue et en même temps une légère inquiétude, d'une certaine exaltation très étrange, presque prophétique. Nous sortîmes ensemble, moi, Fanser, et un ami de Fanser, un nommé Doberti, celui-là précisément qui avait parlé de la bouche. Chemin faisant, ils continuèrent à causer entre eux de grossières voluptés, et ils s'arrêtaient de temps à autre pour rire à leur aise. Moi, je restais un peu en arrière. Une mélancolie pareille à un chagrin, une surabondance de choses obscures et confuses gonflait mon cœur déjà si oppressé, si humilié. Cette soirée, après 12 ans, je me la rappelle encore. Je n'en ai rien oublié, pas même les plus insignifiants détails. Et je sais maintenant, comme alors je sentis, que cette soirée décida de mon sort. Qui m'a envoyé donc cet avertissement? Mais est-ce possible, est-ce possible? Un simple nom de femme, trois syllabes sonores, ouvrant devant vous un abîme inévitable? Et vous avez beau l'apercevoir, vous le savez inévitable. Est-ce possible cela? Pressentiment, clairvoyance, vue intérieure. Mais des mots, rien que des mots. J'ai lu dans les livres, moi. Non, non, ce n'est pas ainsi que les choses se passent. Vous avez-vous jamais regardé en dedans? Avez-vous jamais surveillé votre âme? Vous souffrez et votre souffrance nous paraît nouvelle, jamais éprouvée. Vous jouissez et votre jouissance vous paraît nouvelle, jamais éprouvée. Erreur, illusion. Tout a été éprouvé, tout est arrivé. Votre âme se compose de 1 000, de 100 000 fragments d'âme qui ont vécu la vie tout entière, qui ont produit tous les phénomènes, qui ont assisté à tous les phénomènes. Comprenez-vous où je veux en venir? Écoutez-moi bien, car ce que je vous dis, c'est la vérité découverte par quelqu'un qui a passé des années et des années à regarder continuellement lui-même, seul au milieu des hommes, toujours seul. Écoutez-moi bien, car c'est une vérité beaucoup plus importante que les faits que vous voulez connaître. Lorsque, une autre fois, demain, pourquoi demain? Vous ne voulez donc pas que je vous explique ma pensée? Ah, les faits, toujours les faits. Mais les faits ne sont rien, ne signifient rien. Il y a au monde, monsieur, quelque chose qui vaut beaucoup davantage. Eh bien, voici encore une autre énigme. Pourquoi la vraie Ginevra ressemblait-elle presque trait pour trait à l'image qui avait flamboyé dans mon esprit? Mais laissons cela. Après 3 ou 4 jours d'absence, elle réapparut dans la salle, portant une soupière dont la vapeur lui voilait le visage. Oui, monsieur, c'était une servante et elle servait une table d'employés. L'avez-vous vue? L'avez-vous connue? Lui avez-vous parlé? Vous a-t-elle parlé? Alors, il n'y a pas de doute, vous avez vous aussi ressenti un trouble subit et inexplicable, s'il lui est arrivé de vous toucher la main. Tous les hommes l'ont désiré, tous la désirent, la convoitent, ils la convoiteront toujours. Fanser est mort, mais elle aura un autre amant, elle aura 100 autres amants, jusqu'à l'heure de la vieillesse, jusqu'à l'heure où les bras lui tomberont de la bouche. Quand elle passait dans la rue, le prince se retournait dans son carrosse, le loqueteux s'arrêtait pour la regarder. Dans tous les yeux, j'ai surpris le même éclair, j'ai lu la même obsession. Elle est changée maintenant, très changée. Alors elle avait 20 ans. J'ai souvent essayé, sans y réussir, de la revoir en moi-même telle qu'elle était quand je la vis pour la première fois. Il y a là un secret. N'avez-vous jamais fait cette remarque? Un homme, un animal, une plante, un objet quelconque ne vous livre son aspect véritable qu'une seule fois, au moment fugitif de la première perception. C'est comme s'il vous donnait sa virginité. Aussitôt après, ce n'est plus cela, c'est autre chose. Votre esprit, vos nerfs lui ont fait subir une transformation, une falsification, un obscurcissement. Et au diable la vérité! Eh bien, j'ai toujours porté envie à l'homme qui, pour la première fois, voyait cette créature. Me comprenez-vous? Non, sans doute, vous ne me comprenez pas. Vous croyez que je radote, que je m'embrouille, que je me contredis. Bon, cela ne fait rien, passons, revenons au fait. Une chambre éclairée au gaz, surchauffée, d'une chaleur aride qui dessèche la peau. Une odeur et une fumée de viande. Un bruit confus de voix et, par-dessus toutes les autres voix, la voix âpre de Wanzer qui donne à chaque mot un accent brutal. Puis, de temps en temps, une interruption, un silence qui me semble effroyable. Et une main m'effleure, enlève l'assiette devant moi, en pose une autre, me communique le frisson que me donnerait une caresse. Ce frisson, chacun autour de la table l'éprouve à son tour, cela est visible. Et la chaleur devient étouffante, les oreilles s'échauffent, les yeux luisent. Une expression basse, presque bestiale, apparaît sur les visages de ces hommes qui ont bu et mangé, qui ont atteint le but unique de leur existence journalière. L'étalage de leur impureté me donne un coup si cruel que je me sens près de défaillir. Je me ramasse sur ma chaise, je ramène mes coudes pour élargir l'intervalle entre mes voisins et moi. Et une voix crie dans le vacarme: Épiscopo alcoolique! Une autre: Non, Épiscopo fait du sentiment, n'avez-vous pas vu la mine qu'il prend lorsque Ginevra lui change son assiette? J'essaye de rire. Je lève les yeux et je rencontre ceux de Ginevra fixés sur moi avec une expression ambiguë. Elle sort de la salle. Alors Filippo Doberti fait une proposition bouffonne. Mes amis, il n'y a pas d'autre solution. Il faut qu'un de nous l'épouse. Pour le compte des autres. Ce ne sont pas exactement les termes qu'il emploie. Il prononce le mot cru, il nomme la chose et le rôle que les autres joueront. Au vote, il faut élire le mari. Wanzer clame. Épiscopo! Maison Épiscopo et compagnie, le vacarme augmente. Retour de Ginevra, qui peut-être a tout entendu. Et elle sourit d'un sourire calme et tranquille qui la fait paraître intangible. Wanzer clame: Épiscopo, fais ta demande! Deux pensionnaires, avec une gravité feinte, s'avancent pour demander en mon nom la main de Ginevra. Et elle répond avec son sourire habituel: J'y penserai. Et de nouveau, je rencontre son regard. Et j'ignore vraiment si c'est de moi qu'il s'agit, si c'est de moi qu'on parle, si je suis cet épiscopo qu'on bafoue. Je ne parviens pas à imaginer la physionomie que j'ai en ce moment-là. Un rêve, un rêve. Toute cette période de ma vie ressemble à un rêve. Vous ne pourrez jamais comprendre ou imaginer quel sentiment j'avais alors de mon être, quelle conscience j'avais de mes actes en voie d'exécution. Je revivais en rêve une phase de vie déjà vécue. J'assistais à la répétition inévitable d'une série d'événements déjà arrivés. Quand? Oh, nul ne le sait. Au surplus, je n'étais pas bien sûr d'être moi-même. Souvent, il me semblait que j'avais perdu ma personnalité. Parfois, que j'en avais une artificielle. Quel mystère que les nerfs de l'homme! J'abrège. Un soir, Ginevra prit congé de nous. Elle annonça qu'elle ne voulait plus servir et qu'elle nous quittait. Elle dit qu'elle ne se sentait pas bien, qu'elle s'en allait à Tivoli, qu'elle y resterait quelques mois chez sa sœur. À l'instant des adieux, tout le monde lui tendit la main. Et, souriante, elle répétait à tout le monde: au revoir, au revoir. Et à moi, elle me dit en riant: nous sommes promis, monsieur Piscopone, ne l'oubliez pas. Ce fut la première fois que je la touchais, la première fois que je la regardais dans les yeux avec l'intention de pénétrer son cœur. Mais elle resta pour moi une énigme. Le soir suivant, le souper fut presque lugubre. Tout le monde avait l'air déçu. Vanzer dit: pourtant, l'idée de Doberti n'était pas mauvaise. Sur quoi, quelques pensionnaires se tournèrent de mon côté et prolongèrent stupidement les railleries. La société de ces imbéciles me devenait insupportable. Et pourtant, je ne cherchais pas à m'éloigner. Je continuais à fréquenter cette maison où, parmi les bavardages et les rires, je trouvais un aliment pour mes obscures et douces imaginations. Durant des semaines et des semaines, malgré les pires embarras matériels, malgré les humiliations, les inquiétudes et les terreurs de ma vie d'esclave, je goûtais tout ce qu'il y a de plus délicat et de plus violent dans les angoisses d'amour. À 28 ans, s'épanouissait dans mon âme une espèce d'adolescence inopinée et tardive, avec toutes les langueurs, avec toutes les tendresses, avec toutes les larmes de l'adolescence. Ah, monsieur! Figurez-vous ce miracle dans un être tel que moi, déjà vieilli, flétri, desséché jusqu'au fond. Figurez-vous une fleur qui poindrait imprévue au sommet d'une branche morte. Un autre événement extraordinaire, inattendu, vint me stupéfier et me bouleverser. Depuis plusieurs jours déjà, Wanzer me faisait l'effet d'être plus dur, plus irritable que d'habitude. Il avait passé les 5 ou 6 dernières nuits dans un tripot. Un matin, il était monté dans ma chambre, livide comme un cadavre, s'était jeté sur une chaise, avait à 2 ou 3 reprises fait celui qui va me parler, puis, renonçant brusquement à rien dire, il était sorti sans m'adresser un seul mot, sans me répondre, sans me regarder. Je ne le revis plus ce jour-là. Je ne le revis plus au dîner. Je ne le revis pas le jour suivant. Comme nous étions à table, Questori entra. C'était un collègue de Wanzer. Vous savez, dit-il la nouvelle, Wanzer est en fuite. D'abord, je ne compris pas bien, ou plutôt je fus incrédule. Mais le cœur me sauta à la gorge. Des voix demandèrent: que dis-tu qui est en fuite? Wanzer, Giulio Wanzer. Je ne sais vraiment pas ce que j'éprouvais, mais ce qui est sûr, c'est que ma première et ma émotion fut surtout de la joie. Je vis un effort pour la contenir. Et alors, j'entendis l'éclat de tous les ressentiments, de toutes les rancunes, de toutes les haines accumulées contre cet homme qui avait été mon maître. Et toi, me cria l'un des plus acharnés, tu dis rien, toi? Wanzer n'avait-il point fait de toi ton domestique? C'est toi sans doute qui lui apportais ses valises à la gare. Un autre me dit, t'as été marqué au front par un voleur, tu feras du chemin. Et un autre, au service de qui tu te mets maintenant, tu entends la questure? Voilà comment il m'insultait, pour le plaisir de me faire du mal, parce qu'il me savait poltron. Je me levai, je sortis, j'allais par les rues, vagabondant à l'aventure. Mais libre, libre, j'étais libre, enfin. C'était une nuit de mars, toute sereine, presque tiède. Je montais par les quatre fontaines. Je tournais vers le Quirinal. Je cherchais les larges espaces. Je voulais voir d'un trait d'une immensité d'air, contempler les étoiles, écouter le murmure de l'eau, faire quelque chose de poétique, rêver à l'avenir. Je me répétais sans cesse à moi-même, « Libre, je suis un homme libre !» Oh, j'étais pris d'une sorte d'ivresse. Je ne pouvais pas encore réfléchir, recueillir mes pensées, examiner ma situation. Il me venait des envies puériles. J'aurais voulu accomplir 1000 actions à la fois pour constater ma liberté. En passant dans un café, je reçus une bouffée de musique qui me remua profondément. J'entrais la tête haute, il me semblait que j'avais l'air brave. Je commandai un cognac, je fis laisser la bouteille sur la table. J'en bus 2 ou 3 petits verres. On étouffait dans ce café. Le geste que je fis pour ôter mon chapeau me rappela ma cicatrice, réveilla dans ma mémoire la phrase cruelle. T'as été marqué au front par un voleur. Et comme je m'imaginais que tout le monde me regardait au front et remarquait ma balafre, je pensais, mais que vont-ils croire? Ils croiront peut-être que c'est une blessure reçue en duel. Et moi, qui n'aurais jamais eu le courage de me battre, je me complus dans cette pensée. Si quelqu'un était venu s'asseoir auprès de moi et avait engagé la conversation, j'aurais certainement trouvé un moyen de lui raconter mon duel. Mais personne ne vint. Un peu plus tard, il entra un monsieur qui prit une chaise placée en face de moi, de l'autre côté de la table. Il ne me regarda point, il ne me demanda point la permission, il ne prit point garde si j'y posais les pieds. Ce fut une impolitesse, n'est-ce pas? Je partis, je me remis à marcher dans les rues, à l'aventure. Mon ivresse tomba tout d'un coup. Je me sentis infiniment malheureux, sans trop savoir pourquoi. Petit à petit, une vague inquiétude émergea de mon étourdissement. Et cette inquiétude grandit, devint poignante, me suggéra une pensée. Et s'il était encore à Rome en cachette, s'il parcourait les rues sous un travestissement, s'il m'attendait devant ma porte pour me parler, s'il m'attendait dans les ténèbres de mon escalier. J'eus peur, je me retournai 2 ou 3 fois pour m'assurer que je n'étais pas suivi. Je rentrai dans un autre café comme dans un refuge. Très tard, je me décidai à reprendre le chemin de mon domicile. Toutes les apparences, tous les bruits me faisaient tressaillir d'effroi. Un homme, étendu sur le trottoir dans l'ombre, me donna une vision de cadavre. « Oh, pourquoi ne s'est-il pas suicidé » pensais-je. « Pourquoi n'a-t-il pas eu le courage de se suicider ? C'était cependant la seule chose qu'il eut à faire. » Et alors je m'aperçus que la nouvelle de sa mort m'aurait mieux tranquillisé que celle de sa fuite. Je dormis peu d'un sommeil agité. Mais au matin, dès que les croisées furent ouvertes, une sensation de soulagement commença de nouveau à se répandre par tout mon être. Une sensation singulière que vous ne pouvez pas comprendre parce que vous n'avez jamais été esclave. Au bureau, j'ai des informations détaillées sur la fuite de Van Zaire. Il s'agissait d'irrégularités très graves et d'une soustraction de valeur à la trésorerie centrale où il était employé depuis 1 an environ. Un mandat d'arrêt avait été lancé contre lui, mais sans résultat. Quelques-uns croyaient savoir qu'il avait déjà réussi à se mettre en lieu sûr. Dès lors, certain d'être libre, Je ne vécus plus que pour mon amour, pour mon secret. Il me semblait que j'étais comme en convalescence. J'avais de mon propre corps une sensation plus légère, moins déplaisante. Je pleurais avec autant de facilité qu'un enfant. Les derniers jours de mars, les premiers jours d'avril, eurent pour moi les douceurs et les tristesses dont le souvenir, maintenant que je meurs, me console d'être né. Ce seul souvenir, monsieur, suffit pour que je pardonne à la mère de Chiro, à la mère qui m'a fait tant de mal. Vous, monsieur, vous ne pouvez pas comprendre ce que c'est pour un homme endurci et perverti par la souffrance et par l'injustice que la révélation de sa propre bonté latente, la découverte d'une source de tendresse dans l'intimité de sa propre nature. Vous ne pouvez pas comprendre, peut-être même ne pouvez-vous pas croire ce que je dis. Eh bien, je le dis quand même. Il y a des moments où, Dieu me pardonne, je sens en moi quelque chose de Jésus. J'ai été le plus vil et j'ai été le meilleur des hommes. Allons, laissez-moi pleurer un peu. Vous voyez comment mes larmes coulent. Tant d'années de martyr m'ont appris à pleurer, ainsi, sans sanglots, sans soupirs, pour n'être pas entendu, pour ne pas affliger l'être qui m'aimait, pour ne pas ennuyer l'être qui me faisait souffrir. Peu de gens au monde savent pleurer comme je pleure. Eh bien, cela, monsieur, cela du moins est une chose dont je vous prie de vous souvenir et de me tenir compte. Après ma mort, vous direz que toute sa vie, le pauvre Giovanni Episcopo sut du moins pleurer en silence. Comment se vit-il qu'un dimanche, le dimanche des rameaux, je me trouvais en tramway sur la route de Tivoli? En vérité, n'en est qu'un confus souvenir. Fût-ce un accès de démence, fût-ce un acte de snobambulisme, en vérité, je ne sais pas. J'allais vers l'inconnu, je me laissais attirer par l'inconnu. Encore une fois, j'avais perdu le sens du réel. Il me semblait que j'étais enveloppé d'une sorte d'atmosphère étrange qui m'isolait du monde extérieur. Cette sensation, je ne l'avais pas seulement dans les yeux, je l'avais aussi sur la peau. Mais je ne sais comment m'expliquer. La campagne, par exemple, cette campagne que je traversais, me paraissait indéfiniment lointaine, séparée de moi par un intervalle incalculable. Comment pourriez-vous concevoir un état mental aussi extraordinaire? Tout ce que je vous décris doit nécessairement vous paraître absurde, inadmissible, contraire à la nature. Eh bien, songez que jusqu'à ce jour, ma vie s'est passée dans ce désordre, dans ce désarroi, dans ces anomalies, presque sans interruption. Paresthésie, dysesthésie. On m'a bien dit le nom de mes maux, mais personne n'a su les guérir. Pendant toute ma vie, je suis resté au bord de la démence, conscient de mon état, pareil à un homme qui, penché sur un abîme, attendrait d'une minute à l'autre le vertige suprême, la grande obscurité. Que vous ensemble? Perdrai-je la raison avant de fermer les yeux? Y en a-t-il des symptômes sur mon visage, dans mes paroles? Répondez-moi sincèrement, cher monsieur, répondez-moi. Et si je ne devais pas mourir, si je devais survivre longtemps encore, perdu d'esprit, dans un asile d'aliénés? Non, je vous le confesse, telle n'est pas ma crainte véritable. Vous savez qu'ils reviennent tous deux la nuit. Une nuit, c'est sûr, Chiro se rencontrera avec l'autre. Je le sais, je le prévois. Et alors, l'explosion de la fureur, la folie furieuse dans les ténèbres. Mon Dieu, est-ce ainsi que je dois finir? Hallucination, oui, ou pas autre chose. Vous dites bien, oh oui, vous dites bien. Il suffira d'allumer une bougie pour que je reste tranquille, pour que je dorme profondément. Oui, une bougie, une simple bougie. Merci, cher monsieur, merci.